Les dessous de l'Infox. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Alors que les tensions entre la Russie et l'Ukraine sont à la une de l'actualité, nous vous proposons ce soir une plongée au cœur du plus connu des médias russes. RT, l'ex-Russia Today, devenu en un peu plus de 15 ans une machine extrêmement offensive au service de la Russie. Voilà l'analyse que nous propose le chercheur Maxime Audinet dans son dernier ouvrage. Il sera notre invité dans quelques instants. Après cela, des vidéos montées, des vidéos trafiquées dans le but de diffuser de fausses informations. Cela se passe au Mali. Nous décrypterons le phénomène avec la rédaction des observateurs de France 24. Mais pour commencer, c'est la chronique de Sophie Malibeau. Bonsoir Sophie Malibeau.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Vous vous intéressez ce soir à une photo devenue virale sur Internet. Photo publiée à l'issue des manifestations contre le pass vaccinal qui se sont déroulées en France à la mi-janvier. Sur cette photo, on voit un défilé de plusieurs centaines de personnes dans les rues de Paris faisant un geste ressemblant de très près au salut nazi. Alors l'affaire a été prise très au sérieux, hein, puisqu'un signalement à la justice a été déclenché par la préfecture de police. Finalement, cette affaire a été classée sans suite, on l'a appris cette semaine, mais aussitôt, Sophie, l'extrême droite l'a récupérée.
Alors c'est l'exemple type de la photo piège, car on voit bien sur ce cliché une foule bras tendus, façon salut nazi. Derrière une banderole et un drapeau marqué de la croix celtique, symbole que les groupuscules nationalistes néo-fascistes se sont appropriés depuis bien longtemps. En réalité, c'est une capture d'écran issue d'une vidéo qui montre tout autre chose. Le groupe, vêtu de noir filmé dans Paris ce jour-là, avance en frappant dans les mains et en tendant les deux bras, ce que l'on appelle un clapping. Ce sont en fait les supporters de foot islandais qui ont initié cette pratique dans les stades. Et d'ailleurs, quand on les voit faire, les supporters, en général, ils ne tendent pas les bras vers l'avant, mais plutôt sur les côtés. Par ailleurs, la photo est floutée de façon à ce que l'on ne voit pas les visages, mais aussi de façon à ce que l'on ne voit qu'un seul bras tendu, ce qui laisse immédiatement penser que l'on a affaire à des gens qui font effectivement le salut nazi, alors que ce n'est pas la réalité.
Alors, ce n'est pas la réalité, mais c'est ce qui a provoqué la réaction du leader du mouvement des patriotes et candidat à la présidentielle, Florian Philippot.
Oui, Florian Philippot, très actif dans cette mobilisation contre le pass vaccinal, notamment, a tweeté la vidéo et reproché au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'avoir menti en relayant cette photo. C'est en effet le ministre qui a requis un signalement en justice, se disant choqué par cette image. Néanmoins, le résumé de la scène par Florian Philippot est lui aussi tout à fait trompeur. Taper dans les mains et crier « Liberté », voilà ce qu'il y avait sur la photo floue de Monsieur Darmanin, écrit-il sur Twitter. Il oublie le sigle que l'on voit en tête de ce cortège, généralement arboré par les groupuscules d'extrême droite, parmi les plus violents. Et puis le slogan sur la banderole « Les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent », citation de Charles Maurras, fondateur de l'Action française fin 19e en pleine affaire Dreyfus, un groupe qui continue aujourd'hui de divulguer ses thèses ultranationalistes et antisémites.
Mais alors, qui est derrière la diffusion de cette photo et donc à l'origine de cette confusion?
Alors en fait, la photo relayée sur Twitter a tout d'abord été publiée sur la messagerie Telegram dans un groupe nommé West Casual. S'y expriment les membres de groupuscules de toute l'Europe, dont certains ont été récemment interdits en France, Génération Identitaire, ou bien les Zouaves de Paris, connus pour leurs actions violentes. Leur chef de file, Marc Cacré-Valmenier, était effectivement présent au rassemblement anti-pass à l'appel de Florian Philippot, alors qu'une mesure de contrôle judiciaire lui interdit de participer à toute manifestation depuis son implication dans les violences contre les militants de SOS Racisme lors d'un meeting d'Éric Zemmour.
Enfin Sophie, est-ce qu'on peut dire que cette photo a été intentionnellement trafiquée?
Alors on ne peut pas le dire honnêtement, mais la façon dont a été pratiqué le floutage induit forcément en erreur. En scrutant les publications de ce groupe, d'ailleurs, on tombe sur toutes sortes de symboles d'ultra-droite, tendance néo-nazie, avec des croix gammées, des croix celtiques, soleil noir et même des représentations du Ku Klux Klan. Le groupe qui défile sous cette bannière ne cache pas ses sympathies et on notera de surcroît la complaisance à leur égard des médias russes alternatifs RT News et Sputnik qui titrent sur, je cite, « le mensonge de Darmanin et de médias qui font passer les antipasses pour des néo-nazis ». Alors qu'en réalité, il s'agit bel et bien de groupes extrémistes minoritaires mais radicaux qui infiltrent le mouvement anti-pass.
Merci Sophie Malibeau. Alors Sophie Malibaud, vous restez avec nous car vous avez réalisé l'entretien de la semaine dans les dessous de l'Infox. Et la transition est toute trouvée hein, puisque vous évoquiez à l'instant les médias russes. Nous allons à présent parler du plus connu d'entre eux, RT, anciennement Russia Today. Né en 2005, devenu un média de plus en plus offensif pour défendre le Kremlin. C'est l'analyse que livre le chercheur Maxime Audinet dans son dernier ouvrage. Il est votre invité, Sophie.
Bonjour Maxime Audinet.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre Russia Today, un média d'influence au service de l'État russe. C'est le fruit de vos travaux de chercheur, spécialiste en études slaves et sciences politiques, en influence russe. C'est un livre publié par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Alors, cette chaîne s'appelait à ses débuts Russia Today, on dit RT aujourd'hui, c'est devenu un géant en peu de temps comparé aux autres médias internationaux qui existaient depuis bien plus longtemps. Comment est-ce que cela s'explique ?
Ce qui s'est passé, c'est que RT au début, quand il s'appelle Russia Today, adopte une ligne éditoriale un peu particulière, assez proche d'une démarche classique de soft power qui va consister à parler de la Russie, à présenter la Russie sous ses meilleurs atours. Et c'est d'ailleurs un des fondateurs de RT, Mikhail Yesin, qui était en fait l'ex-ministre des communications et de la presse, avait dit que voilà, en Occident, on parle de nous comme des ours qui grognent en substance, et du coup, il faut un petit peu changer cette perception. Sauf que pendant les 3 ans où cette ligne est développée, on se rend compte que les audiences ne démarrent pas, ça ne marche pas du tout. Et c'est en fait en 2008, au moment de la guerre entre la Russie et la Géorgie, en Ossétie du Sud, que RT va finalement adopter une nouvelle ligne, considérant que la couverture des événements par les grands médias anglo-américains est biaisée en faveur de la Géorgie, et ils disent c'est le moment de changer de ligne, d'utiliser en fait ce média que nous avons dans une autre perspective, et c'est là qu'ils vont développer toute cette approche alternative qui vont ensuite décliner tout au long de leur internationalisation en fonction des zones d'implantation de la Russie. Donc si vous voulez, ce qui fait que ça marchait, c'était que plutôt que de parler de la Russie, des régions russes, de ce qui se passait en Russie, RT allait présenter auprès des téléspectateurs irakiens, syriens, vénézuéliens, français, allemands, etc., non pas ce qui se passait en Russie, mais une autre lecture des événements, une autre vision de la vérité, et ça, c'était beaucoup plus attractif en fait auprès de ces audiences, qui a expliqué qu'ensuite, RT a fini par doper ses audiences.
Est-ce qu'on est dans la désinformation, la propagande pure, ou est-ce que c'est plus subtil que ça ?
Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que RT est un média qui joue sur plusieurs tableaux. Et c'est ce que j'essaie vraiment de démontrer dans le livre, c'est qu'on aurait tort de le considérer seulement comme un instrument classique de diplomatie publique ou seulement comme un instrument de propagande ou comme, on l'entend très souvent, un propagateur de fake news à longueur de journée. Ce n'est pas le cas. En fait, RT joue sur plusieurs tableaux en fonction des événements couverts. Et effectivement, lorsque vous avez des événements qui ont une importance stratégique pour la Russie ou qui sont susceptibles de remettre en cause sa réputation, je pense par exemple à la crise en Ukraine, je pense à l'affaire Navalny, je pense à ce qui s'est passé en Syrie, je pense à l'affaire Skripal au Royaume-Uni, eh bien tous ces événements vont être pour le coup couverts avec des éléments de langage, avec une approche qui là peut être effectivement plus propagandiste au sens où vous avez d'un seul coup une espèce de rigidité dans la production de contenu qui se met en place. Alors que si vous couvrez d'autres événements qui se passent dans les pays d'implantation, etc., là vous avez des approches très différentes où vous pouvez avoir une ligne idéologique assez prononcée, par exemple une ligne très à gauche et très anti-impérialiste en Amérique latine, une ligne beaucoup plus souverainiste dans les pays européens. Donc là on n'est pas effectivement dans un discours strictement propagandiste, on est plus dans une perspective d'influence avec une approche très orientée de l'information. Et ça, c'est cette dimension alternative qui est fondamentalement élastique en fait et qui peut être déployée en fonction des audiences ciblées.
Et alors, qui est le personnage central derrière tout ça ? Qui est à la manœuvre ?
L'une des figures majeures de l'influence russe aujourd'hui, c'est effectivement la rédactrice en chef de RT, qui est aussi la rédactrice en chef de Sputnik, qui s'appelle Margarita Simanyan. Et Margarita Simanyan, c'est finalement elle qui a donné, si vous voulez, sa coloration un peu particulière à RT, puisque c'est la première et l'unique rédactrice en chef de RT depuis sa création en 2005. À l'époque,
elle avait 25 ans,
effectivement. Donc elle s'était fait connaître par la couverture des attentats de Beslan à l'époque, dans le sud-ouest de la Russie. Et donc peu à peu, en fait, Margarita Simanyan s'est imposée comme une des figures clés de ces médias d'État en Russie, à tel point qu'aujourd'hui...
Dans le portrait que vous en faites, elle a l'air d'avoir vraiment une certaine proximité avec Vladimir Poutine.
Elle a surtout, je dirais plus que Vladimir Poutine, qui est peut-être, qui effectivement la connaît, c'est assez évident, mais elle a surtout une proximité avec une figure de l'administration présidentielle, qui est la principale institution, si vous voulez, au Kremlin, et qui est Alexei Gromov. Alexei Gromov, c'est le premier directeur adjoint de l'administration présidentielle, et c'est lui qui s'occupe des relations entre le Kremlin et les médias. Et effectivement, elle a une proximité très forte dont elle a elle-même parlé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, Margarita Simonyan est plus, ce que je dis dans le livre, plus que fidèle au régime. Aujourd'hui, elle est partie prenante, elle fait partie de cette frange médiatique du régime russe qui participe en fait à la légitimation de son action et au dénigrement, inversement, des adversaires de la Russie ou du Kremlin.
Donc ce que vous dénotez, c'est un parti pris idéologique finalement de RT.
Oui, effectivement. Et ce qu'on peut dire, c'est que plus qu'un média qui va diffuser de la désinformation, ce qui finalement est assez marginal, voire parfois rarissime sur les canaux de RT, c'est un média qui déploie d'abord un certain parti pris compatible en fait avec la politique étrangère russe et avec le discours officiel. Je ne dirais pas qu'il y a de rigidité idéologique, ce qui différencie clairement RT de ce que faisait par exemple Radio Moscou à l'époque soviétique. Mais en revanche, vous avez effectivement des partis pris idéologiques, c'est très transpartisan et ça se déploie en fait en fonction des théâtres de projection de l'influence russe qui varient, où les intérêts varient en fait en fonction des positions géopolitiques de la Russie.
Il y a aussi un parti pris idéologique anti-européiste.
Oui, absolument. Alors c'est vrai que c'est une des facettes de cette critique de l'Occident libéral, c'est la critique de l'Union européenne présentée comme une entité supranationale qui viendrait empêcher les nations d'exercer leur souveraineté réelle. Donc ça, c'est un discours eurosceptique et souverainiste assez traditionnel qui, effectivement, est un élément central de la ligne éditoriale des canaux européens de RT. RT en anglais, RT en allemand et RT France. D'ailleurs, un de mes enquêtés à Moscou, qui travaillait chez RT, me disait que le souverainisme faisait même partie de cette ligne éditoriale et il l'assumait en tant que tel. Donc, effectivement, vous avez ce parti pris eurosceptique qui est très présent sur RT et qui est développé pour justement s'attirer certaines franges de l'opinion publique qui sont plutôt alignées sur ces éléments.
Vous diriez que c'est un média d'opinion ?
Alors ça, c'est aussi un élément intéressant parce que l'opinion, effectivement, est très souvent utilisée par RT pour être mis en équivalence avec des positions beaucoup plus solides qui relèvent de la réalité factuelle. Et ça, c'est un élément très intéressant qu'on appelle en sociologie des médias la désorientation, c'est-à-dire que RT tombe très rarement dans la censure complète, c'est-à-dire ne pas exposer un certain élément. Donc ils vont préférer en fait diluer un événement et diluer un certain nombre de faits en le noyant sous un déluge d'opinions alternatives où précisément on va mettre en équivalence une position extrêmement ferme et alimentée par des arguments rationnels avec une opinion d'une personne plus ou moins crédible, voire parfois qui n'est pas du tout spécialiste de cette question. Et cette mise en équivalence va créer chez le lecteur un sentiment de désorientation. Je crois que par exemple l'affaire Navalny et la couverture de l'affaire Navalny a été un bon exemple de ce type de pratique.
Et la couverture de l'actualité en Afrique, comment opère RT sur le continent ?
Là encore, vous avez plusieurs types d'approches. Moi, j'avais analysé en profondeur la manière dont les médias russes, RT et Sputnik en France, qui sont de plus en plus implantés en Afrique subsaharienne, couvraient par exemple l'opération Barkhane. Et là, j'avais observé finalement une couverture assez pondérée, même si vous aviez une petite minorité d'articles qui souvent sont les plus partagés, qui ont une vision beaucoup plus critique, présentant par exemple l'opération Barkhane comme une armée d'occupation, comme un réflexe néocolonial de la France dans son précaré. En revanche, si vous regardez la manière dont ces médias couvrent par exemple la présence de la Russie en Centrafrique, et je pense notamment à la couverture du groupe Wagner, là vous avez pour le coup une couverture extrêmement sélective, qui ne va mettre en avant que les aspects les plus affichables de cette présence russe, notamment je pense à l'instruction militaire par exemple, là où l'action des mercenaires de Wagner, la question de l'extraction minière qui est centrale dans cette présence russe est totalement éludée et n'apparaît pas du tout sur ces canaux. Donc vous avez là une couverture très sélective quand il s'agit de présenter ce que fait la Russie dans cette région.
Y compris les exactions des mercenaires de Wagner.
Et évidemment, les exactions ne sont pas présentées. En revanche, vous avez eu, dans un autre domaine de cette influence informationnelle russe, la Russie et notamment Yevgeny Prigojine, qui est cet acteur clé de l'influence informationnelle russe en Afrique, une de ces entités finance une radio en Centrafrique qui s'appelle Radio Lengo Songo et qui est présentée souvent comme la radio des Russes à Bangui. Et cette radio a mené une contre-offensive médiatique très forte contre RFI au moment où des journalistes de RFI ont documenté les exactions de Wagner dans le pays.
Merci beaucoup Maxime Audinet. Je rappelle le titre de votre livre Russia Today RT, un média d'influence au service de l'État russe, édité par l'Institut national de l'audiovisuel.
C'était Maxime Audinet avec Sophie Malibeau. Notre dernier rendez-vous à présent dans les dessous de l'Infox, on rejoint la rédaction des Observateurs de France 24. Bonsoir Alexandre Capron.
Bonsoir.
Vous nous parlez ce soir de vidéos très particulières qui circulent actuellement au Mali.
Mais si vous êtes un auditeur malien ou que vous vous intéressez à l'actualité politique du Mali, il y a de grandes chances que vous ayez déjà vu ce type de vidéos circuler sur Facebook ou WhatsApp. C'est des vidéos très artisanales, hein, montées de sommairement avec une succession de photos. Et surtout une voix robotique automatisée très reconnaissable, j'ai plutôt.
Regardez ce français. Vous l'avez bien vu. Regardez le même français au milieu des djihadistes. C'est lui qui fournit les armes aux djihadistes, c'est lui qui donne toujours la position de l'armée malienne.
Alexandre, cette vidéo que l'on entend hein, évoque un français. Qui est ce français ?
Mais ce français, c'est le philosophe Bernard-Henri Lévy. Et sur la vidéo, alors imaginez, on voit une photo de Bernard-Henri Lévy entouré de soldats enturbanés et armés jusqu'aux dents. Donc vous pouvez penser que cet homme, c'est un mercenaire qui livre des armes à des djihadistes au Mali. Sauf qu'en réalité, la photo est totalement hors contexte. Elle a été prise en 2007 au Soudan. Bernard-Henri Lévy rendait visite au commandant Tarada, l'un des leaders de l'armée de libération du Soudan. Ça n'a donc absolument rien à voir avec le Mali, contrairement à ce que suggère la vidéo. Vous l'avez compris, en fait, ces vidéos sont fabriquées pour diffuser rapidement des fausses informations. Leur cible principale, ce sont les organisations politiques maliennes qui rejettent la transition voulue par la junte au pouvoir depuis le putsch du 18 août 2020, mais aussi et surtout la présence militaire française au Sahel.
Alors, ces vidéos sont assez artisanales, mais est-ce que parfois elles utilisent des technologies qui seraient plus sophistiquées?
On est tombé fin décembre sur une curieuse vidéo. On voit un présentateur face caméra dans un studio télé professionnel. Écoutez ce que dit ce supposé journaliste.
Bonjour chers internautes. Vous vous rappelez de la lettre des 23 millions d'euros que Macron avait proposée aux traîtres de la nation. Du début de l'assise jusqu'à la fin, vous ne verrez jamais l'un d'entre eux. Ils ont déjà pris une partie de l'argent et Emmanuel Macron a l'œil sur eux.
Vous avez entendu, la voix est également assez robotique et ce journaliste nous explique que des responsables politiques maliens auraient touché de l'argent de la France pour ne pas se rendre aux assises nationales du Mali qui ont eu lieu fin 2021. Là encore, c'est une fausse information. Ce qui est très intéressant, c'est que cette vidéo a été réalisée via une technologie deepfake.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un deepfake, Alexandre ?
En fait, ce présentateur qu'on voit dans la vidéo n'est pas réel. Il a été créé par une intelligence artificielle qui donne l'illusion qu'il s'agit d'une vraie personne qui bouge ses lèvres en même temps que le texte. La vidéo a été créée sur le site internet Synthesia, qui permet de fabriquer ce type de contenu, par exemple pour faire la promotion d'un produit ou pour des formations en ligne. Sauf que là, ça a été utilisé pour créer une vidéo et diffuser de la désinformation. On a contacté le PDG de cette entreprise, Synthesia, qui s'appelle Victor Riparbelli. Il nous a affirmé que cet utilisateur a été banni de la plateforme pour avoir diffusé une vidéo à caractère politique, mais il était trop tard parce qu'il avait déjà publié sa vidéo. Donc cet exemple nous montre que les technologies plus sophistiquées sont de plus en plus accessibles et qu'il faut donc rester vigilant face à des vidéos avec des voix robotiques et automatisées.
Merci Alexandre Capron et je renvoie au site internet hein, des Observateurs pour retrouver les détails de cette enquête en vidéo.
Merci, au revoir.
Vérification faite.
Et c'est ainsi que s'achèvent les dessous de l'Infox. Rendez-vous sur notre site internet www.rfi.fr pour nous réécouter, pour nous podcaster. Merci à Claude Battista à la réalisation de cette émission. Vendredi prochain, ce sera Adrien Delgrange. Très belle soirée à tous.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Témoin d'actu.